France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Le gouvernement trace sa feuille de route pour lutter contre le nouveau coronavirus. Cela passera par le ciblage des territoires où la circulation du virus est la plus active. De nouvelles restrictions seront donc annoncées, par exemple pour Nice et pour Lyon, où les taux sont au-dessus des seuils d'alerte. Des durcissements sont également envisagés pour Marseille et pour la Guadeloupe si la situation ne s'améliore pas. Voilà ce qu'a dit hier après-midi le ministre de la Santé. Olivier Véran qui explique aussi que, je cite, « nous devons apprendre à vivre avec le virus » pour quelques mois encore. Hier, 50 personnes sont mortes en France. 10 600 ont été contaminées en 24 heures. Dans la zone Europe de l'Organisation mondiale de la santé maintenant, ce sont près de 5 millions de cas qui ont été officiellement recensés depuis le début de cette épidémie. Un niveau de transmission alarmant ces dernières semaines, selon l'OMS. Elle s'inquiète notamment des raccourcissements des quarantaines dans plusieurs pays, dont la France qui est passée de 14 à 7 jours. Pour Israël, c'est le début du reconfinement ce vendredi et pour 3 semaines. Interdiction de se rendre à plus de 500 mètres de chez soi, sauf pour aller au marché, à la pharmacie ou au travail, si la profession est jugée essentielle. Pour la première fois de son histoire, la grande synagogue de Jérusalem ne pourra pas accueillir les célébrations du Nouvel An juif. La Biélorussie va fermer ses frontières avec la Pologne et la Lituanie. Le président Alexandre Loukachenko l'annonçait hier soir, évoquant une contrainte selon lui, car les deux pays voisins ont accueilli plusieurs opposants au régime. Et puis notons aussi que la direction japonaise de Bridgestone ne sera pas présente pour la première réunion organisée par le gouvernement français lundi sur l'avenir de Bridgestone à Béthune dans le Pas-de-Calais. Lundi, deux ministres vont s'y rendre pour tenter de sauver les 863 emplois menacés par la fermeture.
Sur France Culture, l'actualité de la bande dessinée, Victor Massé de L'Épinay.
C'est un grand auteur de bande dessinée que nous recevons cette semaine, François Bouc. Il viendra nous parler de New York Cannibals, la fable urbaine terrifiante qu'il signe avec le romancier américain Jérôme Charine. Mais il viendra aussi nous parler du procès des attentats de janvier 2015 qu'il couvre pour Charlie Hebdo.
Le Rayon BD, ce dimanche à 16h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Le 22 septembre à 20h, Live à FIP spéciale Session Unique. Un nouveau concert exceptionnel avec Magma, Chassol, Yom, le Cabaret Contemporain, le Quatuor Debussy, Kerenan, Nosfell, Claire Diterzy, Baptiste W. Hamon, Fred Palem et le Sacre du Tympan. Sur FIP le 22 septembre à 20h. FIP, une radio de Radio France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, c'est l'heure du monde vivant avec Bruno David autour ce matin du dodo.
Nous sommes en 1598. Le vice-amiral hollandais Vibrand van Warwick navigue dans l'océan Indien et nomme une petite île, île Maurice, en l'honneur du prince néerlandais Maurice de Nassau. Vibrand van Warwick consigne ses observations. Il mentionne la présence d'un gros poulet forestier d'un mètre, pesant environ 10 kilos. D'aspect lent et stupide, il est incapable de voler et il ne fuit pas l'homme. Son corps pâteau n'est pas gracieux, son plumage est grisâtre, orné d'un petit panache sur le croupion. Il porte une sorte de capuchon dur sur la tête et son gros bec est renforcé et crochu en son extrémité. L'équipage goûte la chair de l'animal. À la mauvais goût, le vice-amiral qualifie l'oiseau de Valkvogel, ce qui signifie « oiseau répugnant ». Pas beau, pas bon. Seulement voilà, il ne suffit pas d'être répugnant pour être oublié, surtout si l'on constitue un garde-manger bien commode à proximité des routes commerciales. Qui plus est, les Européens vont inonder l'île de chiens, chats, rats, porcs et même macaques. Notre pauvre dodo, également appelé drone de l'île Maurice, car il s'agit bien de lui, va souffrir. Ses nids, où il pond un seul œuf à même le sol, sont pillés. Si bien pillés que l'on estime que la pression de prédation sur les œufs ou sur les poussins fut plus importante que celle de la chasse humaine. Les dernières mentions de l'oiseau sur l'île datent de 1681. Il aura donc suffi de 80 ans. 80 ans à une époque où la navigation était sommaire pour éradiquer une espèce. Éteint en moins d'un siècle, le dodo est devenu malgré lui l'emblème de l'extinction des espèces. Mais ce statut est récent. Jusque vers la fin du XVIIIe siècle, 100 ans après son extinction, on ne soupçonne pas que l'espèce ait disparu. Chose curieuse, même si quelques dodos furent ramenés en Europe au XVIIe siècle, aucun n'a fait l'objet d'une description scientifique de son vivant. L'espèce est donc étudiée post-mortem en quelque sorte. En 1758, Linné le baptise Raphus cuculatus. En 1770, Buffon dénigre l'oiseau qu'il n'a jamais vu. Écoutons-le. Il paraît fait exprès pour nous donner l'idée du plus lourd des êtres organisés. On le prendrait pour une tortue qui se serait affublée de la dépouille d'un oiseau. En 1865, Lewis Carroll en fait un personnage d'Alice au Pays des Merveilles. Lewis Carroll s'inspire d'une peinture représentant un dodo boursouflé, un individu ramené en Europe qui avait été gavé de biscuits. Le dodo sauvage ne devait pas avoir été aussi dodu. Aujourd'hui, les analyses génétiques montrent que son plus proche parent actuel est le pigeon de Nicobar, qui sont des îles de l'est de l'océan Indien. Les dodos malhabiles avaient donc pour ancêtres des pigeons capables de voler. À l'île Maurice, d'autres espèces furent victimes de l'arrivée des Européens, dont les tortues géantes. Actuellement, on compte 32 espèces de plantes disparues de l'île suite à sa déforestation. Alors, un peu facile de faire du commerce de produits dérivés sur le dos du dodo, trop emblématique. Un dodo qui ne saurait, à lui seul, cacher la dévastation des îles et de leur biodiversité. Espérons que l'expression anglaise « dead as a dodo », qui signifie « tout à fait mort », ne sera plus de mise.
Vous écoutez Les Petits Matins de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Réveil culturel. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée et aujourd'hui je reçois Baru, le rare et précieux Baru qui revient avec le premier tome d'une saga qui lui tenait à cœur depuis des années. Raconter l'histoire des immigrés italiens en France au début du XXe siècle et pour cela replonger dans les souvenirs familiaux. Bella Ciao, tel est le titre de l'album qui ouvre une trilogie annoncée et le premier tome, le Uno, vient de sortir chez Futuropolis. C'est une excellente surprise car cette bande dessinée autobiographique ne ressemble à aucune autre de ce genre. Mieux, elle interroge le genre. Comment raconter l'histoire de sa famille et faire parler les absents? Comment remonter le cours de l'histoire en empruntant les fils narratifs de la fiction? Entre la légende et la vérité, Baru choisit de ne pas choisir, ou plus exactement de représenter les deux, de les confronter. Et d'une manière subtile, à partir de ce récit consacré aux siens, c'est-à-dire aux immigrés italiens qui ont souffert du racisme avant d'être intégrés, de poser la question plus que jamais d'actualité. Quelle est la part de renoncement exigée pour une intégration réussie? Quel est le prix que les immigrés doivent payer pour devenir transparents dans la société française? Bella Ciao, c'est le titre de l'album de Baru. Bella Ciao, c'est aussi le titre d'une chanson que vous connaissez, que tout le monde connaît, ou plus exactement, que tout le monde croit connaître. Mais avec Baru, ce matin, je vous promets qu'on l'entendra d'une autre oreille.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Baru.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Je vous promets en préambule que je vais faire mon possible pour que le fan absolu de longue date que je suis ne prenne pas le dessus sur le journaliste qui va vous interroger ce matin. Et si je commence par rappeler en préambule que vous avez obtenu le Grand Prix d'Angoulême, la suprême distinction pour un auteur de bande dessinée en 2010, ce n'est pas pour égrener la liste des prix reçus durant votre carrière, mais parce que je me souviens que cette année-là, vous m'aviez parlé pour la première fois du projet de Bella Ciao, de votre envie de raconter l'histoire de l'intégration douloureuse des immigrés italien. Je me souviens vous avoir dit que c'était déjà comme à présent dans au moins deux de vos bandes dessinées qui racontent un peu votre enfance et votre adolescence, à savoir Kékette Blues et les années Spoutnik. Vous m'aviez alors répondu que votre envie était de raconter cette fois-ci l'histoire de votre père, de votre grand-père et d'une manière générale des immigrés italiens en France du début du XXe siècle. 10 ans déjà. Qu'est-ce qui a nécessité autant de temps? Recueillir les témoignages des membres de votre famille, reconstituer l'histoire de ceux qui sont déjà partis, réunir la documentation ou trouver la forme pour raconter l'histoire de votre famille et à travers elle d'un siècle d'histoire en France?
Bah, écoutez, Toufik, la forme, non. La forme, je l'avais tout de suite. Je savais que ça allait être comme ça. C'est-à-dire, je savais que ça allait être une succession de séquences et qu'il y avait peu ou prou à voir avec avec la mémoire. Et donc, j'ai construit mon récit un petit peu comme fonctionne la mémoire, à savoir que la mémoire n'est pas linéaire, elle n'est pas ni chronologique, elle est basée quasiment sur le mode du marabout de ficelle, quoi. Ben voilà, c'est ce que je fais avec Bella Ciao, dans la forme, quoi. Et sur le fond, pourquoi, oui, depuis 10 ans, mais ça fait même depuis 20 ans que je parle de ce qui s'appelait encore pas Bella Ciao à l'époque, mais de ce projet que j'avais de mettre en scène une famille fictive, hein, parce que c'est pas, j'allais dire, hélas, c'est pas l'histoire de ma famille, parce que dans ce cas, si c'était l'histoire de ma famille, elle serait digne des livres d'histoire avec un grand H, quoi, cette famille là celle des Martine, il va traverser, j'allais dire, le 20e siècle dans ce qu'il a eu de plus tragique. Et donc, d'éminemment presque romanesque, parce que hélas, la tragédie a souvent à voir avec le romanesque, quoi. Et donc, les éléments, je les avais déjà, en fait, je les porte depuis pas mal de temps. J'ai la chance, moi, de pas avoir besoin de noter quand j'ai une idée qui m'arrive comme ça, en me disant, tiens, ça serait peut-être une piste pour aller dans telle ou telle direction. C'est que je m'en rappelle.
Et alors, qu'est-ce qui a pris beaucoup de temps? C'est une forme de pudeur vis-à-vis de votre famille, de la mémoire? Parce que vous dites que c'est une fiction. Il y a bien sûr une part très fictive, mais il y a quand même des éléments de votre famille, de l'histoire, de votre propre histoire familiale.
Tout à fait, oui. Ne serait-ce que déjà l'histoire de mon père, quoi. Mmh. Et effectivement, mais cette fois, je prends la précaution de manière à ce que... Parce que je trouve que c'est un petit peu embêtant, même si aujourd'hui l'autobiographie en bande dessinée a quand même acquis ses lettres de noblesse. C'est toujours un petit peu, je pense... péjoratif de ramener un travail de fiction à de l'autobiographie, comme si en gros ça veut dire qu'autobiographie, oui, vous avez aucun mérite, vous avez même pas à imaginer des trucs parce que ce sont des choses qui ont existé. Non, c'est là, ce n'est pas ça, et je pense que j'insiste d'ailleurs là-dessus dans ce bouquin-là, parce que là c'est un petit peu aussi le bilan de mes presque 40 ans de bande dessinée. C'est que l'autobiographie, à mon sens, n'existe pas. On ment toujours.
D'ailleurs, vous interrogez ce genre. On a parlé de la forme de Bella Ciao Baru, hein. C'est une bande dessinée qui mêle 3 niveaux de lecture. Une fiction dessinée. D'ailleurs, elle est dessinée en couleur. Et puis, vous réservez le trait noir pour la stricte réalité où vous vous représentez. Et entre les deux, parce qu'il y a quelque chose entre le réel et la fiction, c'est, et vous utilisez, alors, du coup, le lavis de gris pour ce qui est de la rencontre entre des faits réels, des faits historiques et quelques anecdotes dont on ne sait pas si elles révèlent de la vie réelle, de votre vie familiale, ou c'est de la fiction.
Ouais, ce lavis de gris là que j'utilise, c'est pour signifier une chose toute simple, c'est que ce sont des faits historiquement constitués, et sauf que moi j'introduis de la fiction dedans pour que au bout du compte, parce que c'est ma tentative, c'est aussi un petit peu, c'est mon ambition, et j'espère que c'est pas une prétention de ma part, c'est qu'au bout du compte, je cherche à créer un effet de réalité qui soit, j'allais dire, plus grand que la réalité factuelle, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, que ça a plus à voir avec la vérité profonde de ces faits-là, plutôt que la vérité, j'allais dire, anecdotique, quoi.
Bella Ciao, c'est l'histoire de Teodorico Martini, qui bientôt va s'appeler Théo. C'est aussi l'histoire de votre père, Terzilio Baruella, oui. Car Baru, ça vient de Baruella.
Oui, et sauf que c'est pas Baruella, mais Baruella. Ouais. Mais bon, vous êtes pardonné dans la mesure Baruella. Où pratiquement depuis que je suis gamin, on estropie mon nom. C'est pas délibéré, c'est pas volontaire, bien sûr. Mais je sais pas, le palais français.
Oui, j'en sais quelque chose moi aussi.
C'est impossible, ils n'arrivent pas à dire Baruella. C'est pourtant très simple. Eh bien non, il y a 4 syllabes, il y en avait peut-être 2 de trop. Donc moi, il y avait 4 syllabes, mais il y en avait 2 de trop. Donc j'ai enlevé le Léa, et c'est aussi parce que pour Baru, bien sûr, Baru c'est mon nom de plume, mais c'est aussi pour tous mes copains, je suis Baru. Parce que depuis que je suis gamin, on m'a toujours appelé Baru. Mon père, on l'a aussi appelé Baru, en fait, tout simplement. Parce que je pense que dans les milieux qui étaient les nôtres, ceux de la classe ouvrière, on n'aime pas trop les noms à rallonge, donc on coupait. Et donc, du coup, ben voilà, Baruella, ça devient...
Bon, coupé aussi pour s'intégrer à la France.
Ouais, hein. Peut-être pas, je pense...
Théodorico qui devient Théo...
Mais Théo, c'était pas par paresse, tout simplement, parce que Théodorico, c'est trop long, donc automatiquement, c'est devenu Théo, quoi. Sauf que chez les Italiens, Théo, c'est écrit T-E-O, ça se prononce Théo. Pour les Français, quand pour dire Théo, c'était H et O. Et mais même pour les enfants du narrateur, il le dit lui-même, il est devenu Théo avec H et. Donc pour dire à quel point il était désormais définitivement transparent, puisque ses enfants le reconnaissaient comme tel.
Théo Derrico Martini, est-ce qu'il ressemble à votre père? Est-ce que c'est son double fictionnel?
Disons que Teodorico serait plutôt éventuellement... Il a mon âge, Teodorico. Tout simplement, c'est parce que je voudrais conduire cette histoire jusque dans les années 80, au moment où les derniers du Haut Fourneau sont tombés. C'est-à-dire qu'au moment où a été détruit, j'allais dire, l'instrument principal de l'intégration de ces immigrés-là, c'est-à-dire le travail dans la sidérurgie, quoi. Et donc, je voulais aller jusque-là, et pour aller jusque-là, donc, il fallait que quelqu'un soit assez proche de ma génération pour pouvoir parler de cette façon-là, quoi. Et donc,
Donc, vous avez inventé un personnage de fiction qui est tout à la fois votre père et vous-même, Baru.
J'ai inventé, mon père est un personnage de fiction parce que c'est le père de Teodorico, il s'appelle Segundo, alors que mon père à moi s'appelait Tarsilio. Tarsilio, ça veut dire le troisième, hein. Tu sais, les Italiens, souvent, ils se prenaient pas la tête pour les prénoms, hein. Ouais. Primo, c'était le premier, Segundo le deuxième, Tercio le troisième, etc., etc. Quinto le cinquième, Ottavio le huitième, mais peut-être aussi Settimo le septième.
Alors ce tome 1 de Bella Ciao, ce livre Hulo, la scène d'ouverture, c'est une scène de massacre. Hein. Ouais. 10 ouvriers italiens sont tués dans un village du Gard. Nous sommes les 16 et 17 août 1893. Qu'est-ce qui se passe alors à Aigues-Mortes, Baru?
Deux journées terribles. Ça risque d'être un petit peu long parce que là, il y a les faits historiques qui sont des faits avérés puisqu'ils ont été étudiés à la fois par Gérard Noiriel et par un Italien, par un auteur italien qui s'appelle Enzo Barnaba. Et comme il y a Barnaba, on dit parce que quand il y a l'accent sur le A à la fin, c'est pour mettre la tonique à cet endroit-là. Donc, c'est dans les salines du Midi où on levait le sel. C'est-à-dire que c'est le moment où on récolte le sel, quoi. Et c'est en plein mois d'août. Il y a des chaleurs monstrueuses, ça a quelque chose qui a à voir avec le bagne, avec l'enfer. Et il y a des gens qui venaient de partout pour pouvoir y travailler. Or, il se trouve que dans ces années-là, il y avait une très grave crise économique qui sévissait en France. Et très nombreux ont été les hommes, parce que ce sont souvent des hommes, qui venaient jusque-là pour pouvoir trouver un peu de travail, quoi. Et sauf que l'habitude avait été prise auparavant, qu'il y avait aussi beaucoup d'Italiens qui venaient, qui étaient eux des paysans. Donc des gens qui travaillaient la terre chez eux et qui venaient, une fois les récoltes finies, passées, ils venaient là pour avoir un peu d'argent, pour acheter des trucs, des habits pour les gosses ou des trucs comme ça, quoi. Le béaba de toute immigration. Mais c'était quand même une immigration saisonnière, hein. C'était pas une immigration qui allait devenir définitive. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces Italiens-là sont venus, ils ont été embauchés pour la plupart d'entre eux par les boîtes parce que ils avaient pour eux d'être très costaud, très fort, parce que c'est les gens qui travaillaient. Alors que tous les autres, on va dire les Français, pour faire court, étaient des gens qui mangeaient pas à leur faim, qui traînaient sur les routes, qui vagabondaient, et qui étaient donc très très faibles. Et en fait, tout ça, cette histoire-là, est partie de la différence de niveau de force entre les indigènes et les Italiens. Les Italiens reprochant aux Français de ne pas aller assez vite, donc parce qu'ils étaient payés à la pièce, de ne pas aller assez vite, donc de leur faire perdre de l'argent, et les autres leur reprochant de les obliger à travailler trop vite et qu'ils n'arrivaient pas à suivre, quoi. Et ça a fini par dégénérer. Le premier jour, donc le 16 octobre, ça a dégénéré en quelques échauffourées, ça a démarré d'un chantier. Et après, ça a commencé à gagner parce qu'il y a des rumeurs qui ont commencé à circuler, notamment que les Italiens avaient tué deux jeunes gens d'Aigues-Mortes au couteau. Et à partir de là, donc, les autres sont sortis et ils sont allés en masse pour s'affronter à eux. Et le lendemain, le dimanche matin, une partie de la nuit et le lendemain, ça a été un massacre. C'est-à-dire qu'il y a au moins 10 Italiens qui ont été massacrés, mais massacrés littéralement, hein, à coups de gourdin, à coups de pierre et des choses comme ça. Et voire, parfois aussi, quand les Aigues-Mortes de souche s'y sont mis, tués par balle, carrément.
C'est avec cette scène que s'ouvre votre livre. Oui. Et c'est là où on retrouve le grand Baru, parce que vous êtes le dessinateur du mouvement. Et là, il y a des pages d'affrontements pour représenter ce massacre.
Cette violence-là, oui. En fait, je tenais beaucoup à commencer par cet épisode-là, parce que, en fait, c'était pour dire à mes lecteurs, vous savez, regardez bien cet épisode-là. Tout ce qui va suivre est adossé à cette violence-là. C'est que, en gros, il va être souvent question du prix du sang que les Italiens ont payé pour s'intégrer à la société française.
À la mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andare, e fra gli insetti zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca fare.
Et dans Bella Ciao, la bande dessinée de Baru, le premier tome vient de sortir, le Uno, on apprend que Bella Ciao, la chanson, n'est pas tout à fait la chanson qu'on croyait. C'est qui l'interprète ici?
Là, c'est Giovanna Daffini.
Oui, la Daffini.
Oui, la Daffini. Et qui, en fait, qui l'a chantée de cette façon-là dans un festival qui était à Spoleto en 1961. Et c'est là que tout le monde a découvert, parce que c'est une chanson de travail, quoi. Ils avaient invité deux mondines, des fameuses mondines, c'est-à-dire ces femmes qui travaillaient dans les rizières pour enlever les mauvaises herbes et replanter du riz à la place, quoi. Et dont a été tiré le film Riz amer, Riz amar.
D'ailleurs, vous en profitez pour dessiner à votre manière la Mangano et l'affiche du film.
Oui, oui. Ce genre de petit plaisir dont on va pas se priver.
Donc c'est pas le chant des partisans.
Non, c'est pas du tout le chant des partisans. À l'origine, c'est pas du tout ça. Mais ça va même encore plus loin que ça. Écoutez, bon, pour faire court avec, parce que l'histoire est très longue, hein. Je me suis permis d'ailleurs de faire des pages, d'écrire cette histoire-là, parce que je la trouve très très intéressante.
Des pages où on chante la chanson avec vos personnages,
voilà. Ouais. Ils chantent un personnage et après on comprend pourquoi et d'où elle vient, quoi. Parce qu'en fait, cette chanson-là, elle vient donc des rizières. Elle a été probablement, parce que la Daffani est entrée dans la résistance vers la fin de la guerre, elle l'a certainement chantée auprès des résistants et eux l'ont transformée pour en faire cette chanson de résistance, mais qui est quand même une drôle de chanson de résistance, parce qu'elle est pas très martiale, on parle juste de quelqu'un qui meurt, quoi, et c'est presque romantique comme chanson. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, Bella Ciao, elle a été traduite, je crois, en 70 langues ou quelque chose comme ça, et elle est chantée par la moitié de la planète. Et elle est chantée par la moitié de la planète, qui la tient pour un chant de résistance. Mais auparavant, c'est que c'est cette mélodie-là, avec cette ritournelle, c'est qu'en fait, elle vient encore d'ailleurs. Probablement, aujourd'hui, tous les gens qui s'intéressent à la chose pensent qu'elle vient d'ailleurs. C'est une chanson, en fait, Kletzmer, du folklore juif d'Odessa, en Ukraine, et qui a été, par le biais d'un chanteur, c'est vraiment...
Un accordéoniste.
Oui, qui a ouvert un restaurant à New York et qui s'appelait Tsiganov, donc un tzigane, un gitan, et qui après les revenus en Italie, va savoir comment. Bon, c'est un mystère.
Bon, on écoute justement cette version de Bella Ciao, l'originelle, je dirais, en klezmer. Mishka Tsiganov, c'est son nom,
oui,
ce musicien.
Oui, tout
bon,
à fait.
On reconnaît tout de suite l'air de Bella Ciao.
Bella Ciao, évidemment. Oui.
Alors, vous amusez dans cette bande dessinée, Baru, à rappeler que l'histoire se raconte avec des faits avérés, avec les documents qu'on a pu conserver de l'histoire, mais ça se raconte aussi avec les légendes, comme c'est le cas avec cette chanson.
Ben, tout à fait. C'est que, en fait, je pense qu'il y a... Comment dire, la mémoire est la pire des choses, parce qu'en fait, il faut jamais se fier à sa mémoire, même quand il s'agit de la sienne propre, même quand on est convaincu d'avoir vécu tel ou tel événement. Parce que
même quand on a les documents, et là en l'occurrence, les documents sur la naturalisation de votre père sont très très édifiants pour parler de l'époque.
Oui, ça blabla. Là, c'est l'avantage, au moins, de ces choses qui sont incontestables. Mais là, il s'agit plus de mémoire, il s'agit simplement de faits. Et puis de la réalité, des documents, parce que ces documents n'ont pas été falsifiés, hein. Mmh. Il n'y avait aucun intérêt à le faire. Simplement, j'ai eu la chance de pouvoir y avoir accès, parce que ils ont eu de ça. Je pense que ça fait pas très longtemps que tout ça a été, comme on dit, dans le domaine public, et ça fait que si jamais il y a des enfants d'immigrés qui nous écoutent et dont les parents ont été naturalisés, qu'ils aillent aux archives de leur département et ils trouveront le dossier de naturalisation de leurs parents.
Pourquoi raconter cette histoire, l'histoire des immigrés italiens, de votre famille en l'occurrence aussi, parue aujourd'hui? Est-ce pour parler d'une manière générale de l'intégration en France, du prix à payer pour s'intégrer dans la société française?
Tout à fait. Je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai fini par me mettre au travail, c'est-à-dire arrêter. Parce que, en fait, on parlait des 7 années que j'ai passé à reculer pour ne pas y aller, quoi. Tout simplement, c'est parce que c'était gros, c'était beaucoup. Je commence à être un peu âgé maintenant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, j'étais déjà fatigué avant de commencer, quoi. Alors que là, donc, une fois que j'ai eu décidé d'y aller, parce que, merde, ça vaut quand même le coup, quoi. Et donc, je me suis jeté à l'eau. Mais à partir du moment où je me suis jeté à l'eau, après, il a fallu, pourquoi maintenant, quoi. Moi-même, je me posais la question. En fait, je pense que c'est parce que cette question-là n'a toujours pas été résolue, celle de l'intégration des étrangers en France, quoi. Et la fameuse intégration à la française, elle a fonctionné pour les Italiens, mais elle a fonctionné dans le déni de la violence qui leur avait été faite. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une continuité, parce que l'immigration a toujours continué, et je parle aussi, quand je parle des Italiens d'hier, je parle surtout aujourd'hui des Maghrébins d'aujourd'hui, quoi. C'est de eux dont je parle, c'est eux qui m'intéressent.
Vous avez toujours parlé de vos racines italiennes, Baru?
Plus ou moins, oui, quand même, mais pas systématiquement, pas d'une manière aussi.
Mais vous n'avez pas connu une période où vous préfériez ne pas parler de vos racines italiennes?
Personnellement, oui. Oui, quand j'étais au lycée.
Oui.
Quand j'étais au lycée, parce que j'étais en plein déni de l'endroit d'où je venais, c'est-à-dire que j'ai eu honte de ce que j'étais.
Et issu de la classe ouvrière, donc.
Oui, oui, oui. Et en plus, avec la double peine d'être en plus fils d'Italien. Donc j'étais non seulement fils d'ouvrier, j'étais mal fringué. Et en plus, j'étais un macaroni, quoi.
Alors, justement, on va terminer cette émission en rendant hommage à un grand dessinateur français qui, lui, a eu du mal à parler de ses origines italiennes. J'ai eu du mal, en tout cas, à trouver, moi, une interview où il parle clairement de sa famille. Vous allez tout de suite le reconnaître, bien sûr.
J'avais 13 ans. Aujourd'hui, un garçon de 13 ans en culotte courte, il aurait honte. Et j'ai été un peu étonné, si vous voulez, de voir que les gens qui s'occupaient chacun d'un journal... J'étais pris en main, par exemple, des rédactrices de journaux féminins qui me faisaient faire des devoirs, surtout des dictées. J'avais un orthographe épouvantable et elle le sentait mes faiblesses, et elle m'a donné des cours. C'est des gens charmants.
Voilà, vous l'avez reconnu.
Oui, Alberto Derzo. Ouais. Je sais que lui, il réchigne à le faire. Quoi. Sur la fin de sa vie, j'ai eu l'occasion, la chance de le rencontrer une fois. Il était tout heureux de me rencontrer parce qu'il a commencé à me parler italien. Et là, la déception s'est lue dans son regard. Je lui ai dit, je suis désolé, Albert, mais je ne parle pas italien.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Le tome 1 vient enfin de sortir. La saga de Baru, Bella Ciao, qui marque d'ailleurs le retour de ce grand auteur. Merci beaucoup Baru d'être passé ce matin.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est bien sûr édité chez Futuropolis. À la prise de son, Bernard Lagnel. C'est une émission réalisée par Vincent Abouchard avec la collaboration de Corinne Amar. Bonne matinée, bon vendredi, bon week-end. On se retrouve lundi à la même heure.
Culture, l'esprit d'ouverture.
Affaires culturelles sur France Culture, Arnaud Laporte.
Affaires culturelles s'engage pour la culture et la création, une émission en 3 parties, un grand entretien avec un artiste, affaires en cours, un objet culturel qui se trouve relié à une question de société, affaires à suivre, des nouvelles du secteur culturel dans les régions et à l'étranger.
Affaires culturelles, du lundi au vendredi à 19h sur France Culture et sur franceculture.fr.
France Culture présente l'exposition Miguel Riobranco au bal. le bal consacre une exposition aux premiers travaux photographiques de Miguel Rio Branco, figure de proue de la création contemporaine au Brésil. Dès les années 1970, pionnier de la photographie couleur en Amérique latine, Miguel Rio Branco saisit avec onirisme les corps, hommes ou femmes, leur gloire ou leur fatigue, leur pudeur et leurs exhibitions. Miguel Rio Branco, jusqu'au 6 décembre, au bal à Paris. Un partenariat France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La rentrée syndicale sous Covid s'est faite hier en France avec des cortèges masqués dans plusieurs villes. À Paris notamment, même si les militants, vous l'entendrez, ne croient pas en un mouvement dur et long. Ils protestaient contre les suppressions d'emplois et pour des hausses de salaire. Pendant ce temps, le ministre de la Santé annonçait de futures restrictions sanitaires à Lyon et à Nice, deux villes où le Covid-19 circule rapidement. Un franco-turc est soupçonné de s'en être pris violemment à la communauté arménienne près de Lyon. Son procès s'est tenu hier, nous y étions, compte rendu d'audience à suivre. Dans ce journal aussi, nous irons aux États-Unis où le vote physique débute aujourd'hui, à un mois et demi de la présidentielle. Et puis en Libye, où le chef du gouvernement veut laisser sa place. Analyse de cette stratégie dans moins de 10 minutes. Comment se faire entendre en pleine crise économique doublée d'une crise sanitaire? Une journée de mobilisation contre les suppressions d'emplois en France était organisée hier par la CGT, Solidaire et la FSU. Cheminots, personnels hospitaliers, laborantins, salariés en usine ont débrayé localement avec des perturbations assez limitées. À Paris, il y avait entre 5 et 10 000 manifestants dans le cortège, des militants un rien désabusé. Anne-Laure Chouin y était et elle nous raconte.
Un cortège masqué, serré de près par les forces de police et duquel émergeait une pointe de désenchantement militant. Jean-Pierre, engagé dans un parti ouvrier indépendant.
Les journées d'action, les travailleurs, ils en ont fait des centaines et des centaines. Donc c'est normal qu'il y ait un scepticisme. Nous, on n'est pas contre cette journée, mais les travailleurs réfléchissent. Est-ce qu'à partir de cette journée, ça va aboutir? Où est-ce qu'on va perdre encore de l'argent?
Pourtant, les thèmes de revendication sont nombreux. Rafales de plans sociaux, crise économique et menaces de reconfinement. Ariane, étudiante, s'effare, elle, des conditions de la rentrée universitaire.
L'été débondé, les classes bondées, l'absence de distanciation sociale, c'est évidemment lié en fait, aux réformes de l'université depuis des années. Mais en fait, le Covid, il vient révéler l'absence de moyens qu'on a dans les universités. Et ça se fait aux dépens de la santé, des personnels, mais aussi des étudiants. Et nous, on est très inquiets de ça. La question, c'est plutôt quel plan de bataille, parce qu'en fait, moi, je n'ai aucune illusion sur le fait qu'une journée sans lendemain, ça va être ça qui va suffire à la jeunesse pour se mobiliser et obtenir ses revendications, et que ça, c'est plus la responsabilité des directions syndicales qui ne proposent pas de plan de bataille à la hauteur de nos aspirations. Nous, on ne va pas avoir d'avenir, en fait. C'est ça, la réalité.
Y aura-t-il une suite à cette mobilisation et laquelle? Rien n'a été fixé pour l'instant.
C'était Anne-Laure Chouin à Paris pour France Culture. Parmi les entreprises annonçant des coupes salariales en ce moment, Bridgestone a été pointé du doigt hier. Le fabricant japonais de pneus souhaite fermer son usine dans le Pas-de-Calais. 863 personnes y travaillent. Une réunion entre le gouvernement, les élus locaux et les syndicats aura lieu lundi à Béthune. Bridgestone, qui avait reçu en 2018 plus d'1,8 million d'euros du CICE, un crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi, mis en place en 2013 par François Hollande. Bilan 7 ans plus tard avec un rapport que publie France Stratégie. Le CICE aura coûté près de 100 milliards d'euros. C'est beaucoup, disent les observateurs, mais cela a créé tout de même 100 000 emplois entre 2013 et 2017. Et cela a eu des effets indirects sur les salaires notamment. Cédric Audenis, commissaire adjoint de France Stratégie, s'en explique.
L'effet du CICE va en fait au-delà de cette estimation qu'on appelle microéconométrique de 100 000 emplois, qu'en effet, le CICE a probablement eu des effets indirects sur les salaires ou sur les prix qui ont pu générer des créations d'emplois dans d'autres entreprises. Donc c'est ce que l'OFCE a essayé d'estimer à l'aide d'une modélisation originale, mais plus fragile statistiquement, et les résultats sont alors plus élevés, on se rapproche de 200 000 emplois. Alors après, effectivement, ce qu'on peut faire, c'est rapprocher ces chiffres de 100 000 ou un peu plus de 100 000 au coût annuel du CICE. Hein, donc jusqu'en 2016, le CICE coûtait 18 milliards d'euros. Donc effectivement, par rapport à d'autres politiques de l'emploi en particulier, ce chiffre ne figure pas parmi les meilleurs. Après, il faut rappeler que le CICE avait d'autres objectifs que la création d'emplois directs. Autant, par exemple, les allègements de charges sur les bas salaires ont pour objectif prioritaire de créer de l'emploi. Alors que le CICE, c'est le fameux C de CICE, avait aussi pour but d'améliorer la compétitivité des entreprises qui génèrent des effets emploi, mais très indirects et donc qui sont plus difficiles à estimer.
Des propos recueillis par Catherine Pétillon. Après Bordeaux et Marseille, le ministre de la Santé cible Lyon et Nice. Des restrictions y seront annoncées pour tenter d'endiguer la propagation de Covid-19. Olivier Véran tenait à ce propos une conférence de presse hier. Il a rappelé aussi que les tests de dépistage seront priorisés. Le protocole sanitaire à l'école, lui, sera allégé aujourd'hui. Un jeune homme franco-turc de 23 ans était jugé hier à Bourg-en-Bresse pour provocation publique à la haine ou à la violence envers les Arméniens. Le 24 juillet dernier, près de Lyon, un groupe de jeunes turcs armés avait perturbé une manifestation de la communauté arménienne. Ils avaient saccagé un commerce. L'audience hier était suivie par Mathilde Amberti.
C'est pour une vidéo que le jeune homme est poursuivi, un live sur Instagram du 24 juillet au moment des incidents près de Lyon. Le prévenu y dit que le gouvernement turc me donne 2000 euros ou une arme et je ferai ce qu'il y a à faire. Les associations arméniennes y voyant une incitation à la violence se sont portées partie civile. Janine Paloulian est la vice-présidente du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France.
Chez nous, même pour les rescapés, même pour les descendants, ça résonne très fort. Ce qu'il y a à faire, c'est refaire les gestes de 1915. Ça réveille tous les souvenirs de déportation de nos ancêtres. Bien sûr, ça va chercher au plus profond de nos entrailles pour remettre du sel sur la plaie qui, quelque part, envie de se cicatriser, mais elle se cicatrisera qu'avec la vérité.
Pour sa défense, le prévenu assure que la phrase sur les 2000 euros et les armes a été sortie de son contexte, qu'elle n'était pas haineuse. À 23 ans, ce jeune homme à l'allure élégante, agent d'entretien en CDI, nie appartenir au groupe nationaliste des Loups Gris. Par contre, il a été candidat aux élections législatives en 2017 pour le parti Égalité et Justice, proche du président turc Erdogan. Quand l'avocat adverse lui demande s'il reconnaît le génocide arménien, il répond « Je ne suis pas historien. Le procureur requiert à son encontre 6 mois de prison avec sursis. La contre-manifestation de militants turcs armés du 24 juillet dernier qui a tenté frayer les Arméniens de Lyon devrait faire l'objet d'un procès ultérieur.
Une réunion de campagne avec des militants dans leur voiture, comme un drive-in au cinéma. Le démocrate américain Joe Biden a retrouvé la foule hier à 1 mois et demi de la présidentielle dans le pays. Face à lui, le président Donald Trump, qui lui a déjà multiplié les meetings. Une campagne qui s'accélère quand une partie de l'Amérique commence à voter en personne aujourd'hui, Loïc Loury.
Aller déposer un bulletin dans l'urne comme si c'était le 3 novembre au bureau de vote du coin, ce sera possible dès aujourd'hui dans 4 États américains. Dès demain, 3 autres suivront, puis une grosse trentaine dans les semaines à venir. C'est à chaque territoire de fixer sa date. La plupart des États permettent ce early voting sans que le votant n'ait besoin de se justifier. Le système n'est pas nouveau, mais il sera plus important avec la pandémie pour les électeurs qui ne veulent pas voter par courrier mais ne souhaitent pas pour autant aller faire la queue dans 6 semaines, vu le contexte sanitaire. En 2016, 4 votes sur 10 avaient été enregistrés en amont de l'élection. Ce pourrait être 6 sur 10 cette année, principalement des votes par courrier, car plus que le vote en personne, c'est ce dispositif postal qui devrait exploser. 80 millions de votes à distance, selon les projections, plus du double de la dernière présidentielle. La promesse d'un comptage compliqué, alors que Donald Trump alimente sans preuve la psychose autour de fraudes massives. Il faudra peut-être attendre au-delà du 3 novembre pour connaître le nom du nouveau président américain.
Et cette campagne américaine fait donc craindre le pire aux commentateurs politiques. Nous y reviendrons plus longuement avec la revue de presse internationale tout à l'heure sur France Culture à 7h35. Avant cela, arrêtons-nous en Libye où le chef du gouvernement légal reconnu par l'ONU, Fayez al-Sarraj, a demandé hier de démissionner avant fin octobre si possible. Mais pourquoi ? Élément de réponse ce matin avec Nabila Hamel.
Lutte d'influence au sein de son propre gouvernement, posture, chantage ou volonté réelle de s'éclipser pour laisser plus de chance à une sortie de crise, le chef du GNA a, avec l'appui de milices et l'aide militaire de la Turquie, eu à affronter et à stopper l'offensive de l'homme fort de l'Est, le maréchal Haftar, lui-même aidé militairement par les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie. Fayez al-Sarraj évoque aujourd'hui des difficultés insurmontables, des partis qui s'obstinent encore à parier sur une solution militaire pour servir leurs objectifs, et un climat, dit-il, social et politique extrêmement polarisé. Au plan interne, la grogne contre la corruption et la dégradation des conditions de vie est désormais perceptible partout dans le pays. Elle a d'ailleurs été à l'origine de la démission du gouvernement parallèle de Benghazi lundi. Au plan politique, les protagonistes de la crise actuelle doivent-ils s'effacer au profit d'une nouvelle dynamique ? Les parlementaires des clans rivaux libyens ont en effet repris le chemin du dialogue lors de deux rencontres parallèles tenues la semaine dernière à Montreux, en Suisse et au Maroc, et devraient se revoir à la fin du mois.
Nabila Amel, les averses et quelques orages arrivent par le sud-ouest aujourd'hui. Ailleurs, c'est le soleil qui domine, avec 14 à 23 degrés du nord au sud. C'est l'heure du journal des idées maintenant à 6h40 sur France Culture. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Jacques, vous avez noté que le président de la République a substitué au mot communautarisme celui de séparatisme. On peut s'interroger sur le sens de ce glissement lexical et sémantique.
Oui, comme le rappelle Adrien Matou sur le site de Marianne, lors de son déplacement à Mulhouse en février, le chef de l'État avait déclaré ne pas être à l'aise avec le mot de communautarisme, expliquant qu'il peut exister des communautés dans la République à condition que celle-ci ne vaille jamais soustraction à la République. Une évolution alors saluée par le président du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui, dans le Figaro. Le terme de séparatisme ne fustige pas la communauté musulmane qui défend certes ses intérêts comme d'autres communautés, mais sans repli sur elle-même. Il est vrai que le mot communautarisme est souvent contesté pour son caractère jugé à la fois vague et polémique, notamment lorsqu'il s'agit de dénigrer certains groupes dont on estime les comportements déviants par rapport à la norme du groupe dominant, ou quand on veut parler d'islamisme sans le nommer directement. Sur le terrain, les habitants des quartiers ne se reconnaissent pas dans le terme communautarisme. C'est un mot politique et médiatique, estimé dans Le Monde le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, chargé d'une mission sur le sujet lorsqu'il était secrétaire d'État. Et dans l'esprit du chef de l'État, il s'agissait de se démarquer d'un républicanisme assimilationniste qu'il critiquait avant son élection à la présidence, accusé de vouloir gommer toutes les appartenances particulières des Français. On peut rappeler ici une autre notion très discutée, défendue par le philosophe québécois Charles Taylor, celle de multiculturalisme. Contre l'individualisme des sociétés modernes, la politique de la reconnaissance qu'il prône entend respecter la singularité de chacun et son inscription dans une communauté morale ou politique, quitte à accorder une importance excessive aux convictions religieuses, résume Céline Spector sur le site La Vie des Idées. La pratique canadienne des accommodements raisonnables consentis sur des bases culturelles ou religieuses reste pour lui conforme aux valeurs d'une société pluraliste, égalitaire et démocratique. Lorsqu'il préside, à la fin des années 2000, la commission de consultation sur les pratiques d'accommodement liées aux différences culturelles, il défend une conception ouverte de la laïcité, l'apprentissage de la diversité et l'intégration des immigrants. Et confronté à la volonté gouvernementale d'imposer une charte des valeurs québécoises, excluant notamment le port du voile dans la fonction publique, Charles Taylor évoque en août 2013 sur les ondes de Radio-Canada un acte d'exclusion qu'on s'attendrait à voir dans la Russie de Poutine. Prenant le contre-pied d'une telle position, le terme séparatisme est-il vraiment efficace? Olivier Roy relevait dans le Huffington Post que la stratégie des frères musulmans, l'un des courants majeurs de l'islam politique, n'était pas séparatiste puisque leur objectif en France est que la République reconnaisse en son sein une minorité ethno-religieuse. Le collectif contre l'islamophobie en France, lié à cette idéologie, estimait urgent pour la France de reconnaître la communauté musulmane comme une des minorités vivant sur son territoire dans un texte du 22 août. Alors, de quoi est-il question ? Pour Rémi Brague, dans le Figaro, il s'agirait ainsi d'éviter de nommer l'ennemi l'islamisme, et il dénonce une confusion mentale dès lors que pour noyer le poisson, on met le terme séparatisme au pluriel, comme l'indique le projet de loi. Selon le philosophe, un conseiller de l'Élysée aurait cité les dérives de ces établissements scolaires catholiques qui nient le pacte républicain. Un autre évoquerait le suprémacisme blanc, quand certains élus veulent souligner le séparatisme des gens très fortunés. Mais faut-il une nouvelle loi ou faire encore évoluer la loi de 1905 sur la séparation des églises ou et de l'État. Je cite Rémi Brague, ce qui serait souhaitable, c'est que l'on fasse respecter les lois existantes. Nous avons l'habitude de ajouter loi sur loi et de nous bercer de la gentillette illusion que les gens ne vont plus respecter la dernière mouture que celle d'avant. Rémi Brague souligne que la République a créé des territoires perdus par négligence, mépris, cynisme, etc. Ce sont aujourd'hui des gens qui se réclament de l'islam, qui veulent se les approprier pour y vivre selon des règles à eux. Des règles, mais pas forcément des lois supérieures à celles de la République. Et d'évoquer les récentes lois dites sociétales qui transgressent la morale traditionnelle, laquelle résiste comme elle peut. Toute société est à cet égard un champ de tension ouvert à l'éthique de la discussion. Mieux vaut la cultiver que légiférer encore et encore. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques.
C'est l'heure des enjeux internationaux. Aujourd'hui, la coopération interafricaine de lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée.
Oui, c'était cet été encore une journée presque ordinaire dans le golfe de Guinée, racontée par le journal La Croix. Un pétrolier grec à la dérive pendant 3 jours au large du Bénin. À son bord, seulement 6 membres de l'équipage sur 19. Les 13 autres, des marins russes et ukrainiens, ont été enlevés sans doute par des groupes armés originaires du Nigeria voisin. Et comme à chaque fois dans ce genre de récit, on n'a pas les dernières nouvelles des otages, mais en général, ils sont ramenés sur la côte et leur libération est négociée contre rançon. Cela fait maintenant une dizaine d'années que le bureau maritime de la Cour pénale internationale recense davantage d'actes de piraterie dans le golfe de Guinée, à l'ouest de l'Afrique, côté Atlantique, bordant le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun entre autres, que dans celui d'Aden. Comment ces États s'organisent pour sécuriser la zone? C'est notre partenariat avec la revue RIS de l'IRIS et ce matin, c'est à Yaoundé, au Cameroun, que se trouve notre invité. Bonjour Guy Mvélé.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Les petits états d'Afrique face à la piraterie dans le golfe de Guinée, la recherche d'une autonomie stratégique, c'est le titre de l'article que vous publiez dans la revue RIS. Alors Guy Mvélé, pour comprendre pourquoi le golfe de Guinée est devenu si prisé des pirates, il faut d'abord expliquer en quoi il est une voie stratégique pour le transport international de marchandises. D'où viennent et où vont les bateaux qui passent par là ?
Effectivement, le golfe de Guinée est situé au cœur de la côte atlantique, comme vous l'avez dit, est ouvert sur le monde et constitue donc un levier de la rencontre entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et lorsqu'un navire de commerce part de l'Occident, il a la possibilité de parcourir, de servir quelques 13 pays côtiers qui, à leur tour, constituent une ouverture à la mer pour de nombreux autres pays, d'ailleurs de l'Interland, n'ayant pas une ouverture sur la mer. Alors, je ne voudrais pas rappeler ici la présence donc dans la région des grands ports africains que sont Lagos, Luanda, Douala, Abidjan, Cotonou, Libreville, Pointe-Noire, etc. C'est là vraiment l'importance stratégique au plan commercial donc, du golfe de Guinée.
Golfe dont il faut rappeler aussi qu'il regorge de ressources, c'est aussi une manne pour les États riverains, notamment en hydrocarbures.
Effectivement, vous savez, l'Afrique produit environ 10% du pétrole de la planète, hein, et pour moitié à partir du golfe de Guinée et le reste, comme vous le savez, provenant essentiellement des pays du Maghreb. Et les plus grands producteurs sont l'Angola et le Nigeria. Et ces derniers temps, on a fait des découvertes qui donnent espoir et qui montrent que l'avenir peut être envisagé avec confiance. D'autant plus que l'effort d'exploration se poursuit sur l'ensemble de la zone, ce qui justifie d'ailleurs donc la présence des grandes sociétés mondiales telles que Total, ExxonMobil, Shell, Eni, Chevron. Et en dehors des hydrocarbures, on a la pêche. Elle y est également importante, mais le problème, c'est quoi? C'est que 40% au moins de cette pêche est non déclarée et non réglementée, ce qui fait un manque à gagner d'environ 1,3 milliard de dollars par an pour les pays côtiers.
Une pêche qui n'est pas suffisante par ailleurs pour contribuer à la sécurité alimentaire des habitants de la région. Donc le golfe de Guinée voit venir aussi beaucoup de bateaux qui importent du poisson. Il n'y a pas seulement des navires de commerce, il y a aussi des navires de guerre, Guillaume Vélé.
Oui, alors des navires de guerre dans la mesure où ces navires de guerre ont pour but non seulement de servir la coopération militaire que de nombreux pays occidentaux entretiennent avec des pays africains, mais également ces navires de guerre qui ont pour but d'accompagner les pays africains dans la sécurisation de toute cette région du golfe de Guinée, comme on venait de l'indiquer, stratégiquement importante à la fois pour le commerce, mais également pour la sécurité même des pays côtiers.
C'est un espace de projection de puissance, écrivez-vous, pour certains pays, une fonction politique de ce golfe, notamment pour le Nigeria. Mais quels bateaux sont principalement visés par les pirates alors ?
Mais disons que il n'y a pas de nationalité particulière et les pirates ne sont pas de simples petits voleurs à la tire, voyez-vous. Ils font un examen assez minutieux sur les dimensions du navire, la nature de la cargaison et certains savent même déjà c'est des navires qui peuvent avoir pris des mesures de sécurité en leur sein. Alors vous avez rappelé tout à l'heure qu'en juillet 2020, 13 marins russes et ukrainiens ont été enlevés au large du Bénin, probablement par des pirates nigériens, dont j'allais dire que la majorité des incidents se produisent dans les eaux territoriales nigériennes, à partir, en particulier autour du delta du Niger d'ailleurs, dans les eaux équato-guinéennes, mais aussi dans une moindre mesure sur la plateforme maritime du port de Lagos, dont les grandes compagnies pétrolières internationales sont particulièrement visées, et c'est pour cela d'ailleurs que les compagnies d'assurance ont mis sur pied dont des polices particulières pour essayer de répondre à cette question de la piraterie dans le golfe de Guinée.
Oui, on va développer cette question de la sécurisation du golfe, mais en quelques mots, vous dites, Guillaume Vélé, que ce ne sont pas de simples voleurs à la tire, ces pirates, mais qui sont-ils justement? Est-ce qu'ils ont des liens avec des groupes armés qui opèrent dans les états côtiers, des groupes djihadistes, notamment au Nigeria par exemple? Est-ce qu'ils ont parfois des motivations politiques ou qui sont-ils? Est-ce que tous ont les mêmes buts?
Alors, globalement, comme je disais, ils attaquent en pleine nuit, parfois par des petits groupes et lancent des attaques décisives quand ils ont déjà testé la vulnérabilité de l'équipage. Et une fois les otages pris, ils les ramènent en terre, vous l'avez dit dans votre propos introductif, contactent les compagnies et oui, on peut très vite faire un lien au Nigeria, par exemple, entre les pirates et les groupes armés qui ont souvent des revendications liées à la redistribution des revenus du pétrole exploité dans les localités, c'est le cas particulièrement du mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, qui pense que le gouvernement fédéral ne répartit pas de façon équitable la manne pétrolière. Donc oui, il y a un lien entre les pirates et puis les mouvements qui opèrent sur les territoires et sur les territoires. Et à partir de là, nous savons, on sait tous que l'épicentre des attaques de piraterie se trouve au Nigeria, mais ces pirates essaient de opérer sur tout le long de la côte et rendent dans la région assez infeste et plus dangereuse.
Et donc ces pays sont forcément affectés dans leurs exportations ou importations qui passent par ce golfe. Il est donc logique que chacun contribue à sécuriser la zone, mais d'abord et avant tout, cette mission de surveillance, elle est organisée par les pays du golfe de Guinée. Alors sans entrer dans le détail de tous les acronymes d'organismes de coopération créé depuis à peu près 7 ans, puisque le premier sommet sur la sûreté et la sécurité maritime, c'est en 2013 au Cameroun. On peut au moins tâcher de comprendre comment elle fonctionne, cette coopération, et quelle est la logique derrière, Guillaume Vélé.
Alors, la logique est que, comme vous avez dit, à Yaoundé, il a été créé un centre interrégional de coordination, alors qui coordonne les activités du centre régional pour l'Afrique centrale et du centre régional pour l'Afrique de l'Ouest. Alors, le fonctionnement est basé sur un certain nombre de principes. Il y a la coordination et la mise en œuvre des activités conjointes. Il y a l'échange régulier d'informations et le partage d'expériences. Mais également, on a des questions liées à l'harmonisation des procédures de contrôle des navires. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que les pays africains veulent poursuivre cette doctrine d'africanisation de la sécurité qui est mise sur pied depuis la création de l'Union africaine en 2000, mais compte tenu de la modicité des moyens et puis des moyens et des budgets de ces pays, il y a donc inévitablement une interaction, une collaboration stratégique avec les grandes puissances qui mènent une collaboration politico-institutionnelle, mais également stratégique avec ces petits États-là.
Alors lesquels, par exemple, hors Golfe de Guinée, qui contribuent à cette lutte contre la piraterie dans le Golfe?
Alors, principalement les États-Unis et la France. Les États-Unis ont lancé depuis 2011 l'opération Obangam Express et la France a lancé depuis un certain temps l'exercice appelé Grand Africa Nemo qui est dirigé par les bâtiments de la Marine nationale française en mission Corém. Et il y a d'autres pays traditionnellement présents dans le golfe de Guinée tels que le Portugal, mais également le Brésil, l'Espagne et puis l'ensemble de l'Union européenne. Ce sont des pays qui accompagnent les pays de l'Afrique, qui ont intérêt à agir dans la mesure où, comme on l'a dit, c'est une région très stratégique, notamment en ressources en ressources pétrolières, mais également halieutiques, et qui permet d'assurer la sécurité même des pays côtiers à l'intériet de l'Interland.
Vous expliquez notamment, Guillaume Vellet, dans votre article, que si les États-Unis sont investis dans la sécurisation du Golfe de Guinée, c'est pas seulement pour des raisons économiques, mais aussi parce qu'ils veulent réduire, les États-Unis, le quasi-monopole de la présence française dans plusieurs pays de la région. Pour conclure, est-ce que c'est... non, pas pour conclure tout de suite, d'ailleurs on a encore un petit peu de temps. Vous dites que ces pays ont peu de budget, c'est peu de dire que le PIB par habitant est très faible, par exemple en République démocratique du Congo, moyen au Cameroun, au Congo, au Nigeria. Quel équipement pour leur marine alors? Parce que beaucoup de ces pays mettent beaucoup d'argent dans leur armée terrestre, aussi leurs forces de sécurité terrestre. Mais pour leur marine, de quoi est-ce qu'ils disposent?
Oui, on a dû constater qu'il y a vraiment la prise de conscience thalassique a été très tardive en Afrique. Et les États ne sont pas très vite rendus compte de l'importance stratégique de la mer, ce qui fait que globalement, il y a un manque d'équipement au sein des forces de sécurité dans la région pour faire face efficacement au problème. Et on a constaté quand même que les marines africaines présentent une réelle progression en matière d'interaction tactique, hein, du fait de la grande coopération avec les grandes puissances mondiale, mais de nombreux États ne disposent ni de frégates, ni de destroyers, ni de corvettes, ni de sous-marins d'ailleurs, et jusque-là sont à peine à mesure de mener celles les opérations relatives aux mines sous-marines. Alors, donc, il y a une progression en termes de capacitation des ressources humaines, mais c'est la logistique qui fait encore problème, d'où l'interaction inévitable avec les grandes puissances. Mmh. Mais l'idée reste, c'est qu'il y a un besoin d'autonomie pour garder la mainmise sur cette région hautement stratégique, mais ce besoin d'autonomie n'est pas suivi toujours d'effets concrets, c'est-à-dire que les Africains ne mettent pas toujours des moyens nécessaires pour réaliser vraiment cette autonomie-là.
Et un acteur de la lutte contre la piraterie parle de la métaphore du ballon de baudruche, puisque de toute façon les pirates se déplacent en fonction des mesures prises à un endroit ou à l'autre. Merci beaucoup Guillaume Vellet d'avoir été avec nous ce matin. Les petits états d'Afrique face à la piraterie dans le golfe de Guinée, la recherche d'une autonomie stratégique, c'est le titre de l'article que vous avez publié dans la revue RIS, la revue de l'IRIS avec laquelle nous sommes partenaires 2020-2030. Les défis de la décennie, cette revue est encore en kiosque pour quelques temps. Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Mais comment vous avez fait pour vous aimer pendant tant d'années?
La séparation, une série en podcast originale Les Pieds sur Terre, Sonia Kronlund.
Manu et Karim forment un couple mythique que leurs amis envient. La séparation raconte leur histoire à partir de leur mariage en 97 jusqu'en 2020. Un récit de Sophie Simoneau sur près de 25 ans, où il est autant question de pec citron que de métaphysique.
La séparation sur franceculture.fr, l'appli Radio France et toutes les plateformes dédiées. France Culture présente l'exposition Courant vert, créé pour l'environnement, à Paris. L'exposition réunit des artistes internationaux engagés dans le combat écologique. À travers leurs installations, photographies, vidéos ou dessins, elles rappellent que l'art joue un rôle dans l'actuelle transition climatique en agissant sur les imaginaires et en proposant de nouveaux récits. Courant vert, du 18 mars au 19 juillet à la Fondation EDF à Paris. Un partenariat France Culture.
Bienvenue sur France Culture si vous nous rejoignez. Les matins de France Culture commencent dans un instant avec vous, Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon.
Votre humeur du jour, Guillaume, faut-il parler du rappeur antisémite Freeze Corleone?
C'est la question que je me posais hier. La meilleure manière de faire le buzz, vous le savez Julie, c'est de brailler quelques paroles contenant les mots-clés Hitler, Shoah, Juif, et pour clouter la chose, rajouter Mollah Omar au cas où les autres mots ne suffiraient pas. Il suffit donc de réunir ces quelques syllabes pour sortir à coup sûr de l'anonymat, non pas devenir un artiste, mais devenir quelqu'un de connu pour quelques jours. Et je me demandais s'il fallait parler de cet énergumène, et puis je suis allé au cinéma voir Mathilde et Rosette, le beau film d'Alice Ekman, un film où un homme de 92 ans raconte la déportation à Auschwitz de la famille de son frère, sa belle-sœur, ses deux enfants, Mathilde et Rosette, âgés de 6 et 10 ans. On les a déportés la nuit de Rosh Hashanah en 1942, la nuit du Nouvel An. C'était la rafle de Lens où un peu plus de 500 juifs ont été arrêtés. C'était facile ce soir-là, puisqu'à coup sûr, les familles étaient réunies. Je dis « on les a déportés », mais en fait, je peux être plus précis, à l'école de Lens se trouve un registre où entre deux appréciations de l'instituteur, peut mieux faire, c'est bien appliqué, se trouve cette phrase « emmenés par les Allemands. Emmenés par les Allemands, ce qui est un mensonge, puisque en réalité ce sont les gendarmes français qui ont perpétré la rafle de Lens. Je regardais ce film et je songeais aux paroles de ce rappeur censé se réjouir de la besogne accomplie par les nazis, ce clip où il lâchait qu'il n'en avait rien à faire. Mais précisément, tout dans son comportement montrait qu'il n'en avait pas rien à faire, qu'il savait pertinemment que c'était là où il fallait frapper, qu'en quelques phrases, il mettrait une bonne part du pays en émoi. La technique est vieille, je crois qu'elle a été inaugurée par le chanteur des Sex Pistols, Sid Vicious, il y a bientôt 50 ans, allant déambuler dans les rues du quartier juif à Paris, habillé d'un t-shirt portant une croix gammée. Mais la ruse de l'histoire, c'est que ces profanateurs aboutissent au résultat inverse de celui qu'ils cherchaient. Nous n'en aurons jamais rien à faire de Mathilde et Rosette, de ces deux petites filles mortes en déportation. Une tombe profanée reste une tombe et la négation de la métaphysique, là, et le mystère reste de la métaphysique.